Hannibal, général carthaginois, par Fulm Brentano. Hannibal était le fils d'Hamilcar, surnommé Barca, l'éclair. Celui-ci montrait fièrement ses quatre fils. Ce sont des lionceaux qui grandiront dans la haine de Rome. En fait, tous quatre périront dans la lutte contre la puissance dévorante qui s'était développée sur les bords du Tibre. Hannibal naquit à Carthage l'an 247 avant notre ère. Il avait 9 ans quand Hamilcar, son père, fut désigné pour le commandant de l'armée d'Espagne, contrée que les Carthaginois avaient soumise à leur domination depuis les colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar, jusqu'à l'embouchure de l'Èbre. Comme son père sacrifiait aux dieux pour l'heureuse issue du voyage, le jeune Hannibal le supplia de l'emmener avec lui. Quand le sacrifice fut achevé, Hamilcar éloigna l'assistance, à l'exception de son fils, auquel il déclara qu'il accéderait à son désir, mais après qu'il aurait prêté serment sur l'autel de n'être jamais l'ami du peuple romain. L'enfant le jura avec un élan et une émotion dont le père lui-même fut surpris. La scène, rapportée par l'historien Polybe, est demeurée célèbre. 3 années auparavant, un traité, conclu par Carthage avec Rome, lui avait fait perdre la Sicile. Peu après, les Romains lui avaient enlevé la Sardaigne. Les Carthaginois clairvoyants comprenaient qu'entre les deux puissances ne tarderait pas à s'engager une lutte sans merci. Mais la majeure partie du Sénat de Carthage voulait obstinément la paix à tout prix. En Espagne, Hamilcar déploya la plus grande énergie. Les soulèvements éclataient de toutes parts, guerre d'embûches et de guérillas, et qui dura 9 ans. Le jeune Hannibal menait la vie des camps. En 228, Hamilcar mourut. L'armée lui donna pour successeur son gendre Hasdrubal. Enfin, quand, en 221, Hasdrubal fut assassiné par un esclave gaulois, Hannibal fut, d'une acclamation unanime, porté par les soldats à la tête de l'armée. Il était dans sa 26e année. Il n'y avait pas dans l'armée meilleur fantassin ni meilleur cavalier. Sous les ordres d'Hamilcar, il avait appris la stratégie, la tactique, les ruses de la guerre. Par sa force, sa vaillance, son énergie, son entrain, il avait fixé tous les yeux. Les vieux soldats, dit Tite-Live, croyaient retrouver en lui son père en sa jeunesse. Hardi, téméraire même dans l'entreprise, il devenait calme et prudent dans le danger. D'une incroyable résistance à la fatigue, il endurait également le froid et le chaud, passant parfois la nuit étendu à terre, vêtu d'une casaque de simple soldat, mêlé aux sentinelles des avant-postes. Il ne connaissait d'autre luxe que ses chevaux et ses armes. Affranchi des superstitions de la religion antique, il ne croyait ni aux oracles, ni aux présages, ni aux merveilles que les aruspices lisaient dans les entrailles des animaux. Il n'avait devant les yeux qu'un but, la grandeur de sa patrie, par la destruction de la puissance romaine. À peine Hannibal fut-il à la tête de l'armée, que la guerre contre Rome fut résolue dans son esprit. Les Carthaginois s'étaient engagés à ne pas pousser leur conquête au-delà de l'Èbre et à respecter l'indépendance de la ville de Sagonde. Hannibal n'eut rien de plus pressé que d'attaquer Sagonde. Il y trouvait un double motif, enlever aux Romains une base d'opération en Espagne et débarrasser Carthage de nos concurrences commerciales redoutées, espérant se faire pardonner ainsi par les sénateurs ses compatriotes la guerre qu'il allait déclencher. Le siège de Sagonde dura 9 mois. Rome s'émut, délégua vers Hannibal des députés, mais quand il fut avisé de leur approche, le jeune général leur fit savoir qu'il ne leur conseillait pas de s'aventurer parmi les hordes barbares de son armée et que d'ailleurs il était trop occupé pour perdre son temps en palabres diplomatiques. La guerre se trouvait ainsi déclarée. Polybe indique nettement qu'Hannibal engagea la lutte en opposition avec le gouvernement carthaginois, et ce fut peut-être le principal motif qui le décida à envahir l'Italie par les Alpes et la Gaule cisalpine, plutôt que de prendre la voie de mer où la flotte carthaginoise, aux ordres du Sénat, lui eut sans doute barré le chemin. Et voilà cette marche fameuse du jeune capitaine à la tête d'une armée de mercenaires, de barbares, de pillards, que seule la puissance de son énergie et de son génie pouvait maîtriser par les Pyrénées, la Gaule méridionale, les Alpes, la vallée du Pô, les Apennins, les marais de l'Arno, dont on ne parvient pas à imaginer les difficultés au temps d'Hannibal et par les moyens dont il disposait. Au pied des Pyrénées, 3000 Espagnols refusèrent de suivre leur capitaine hors de leur pays. À la descente des Alpes, il fallut, à coups de pique et de pioche, frayer un chemin dans le roc et la glace aux chevaux et aux éléphants que l'armée emmenait avec elle. Quand il se trouva sur l'autre versant, Hannibal avait perdu la moitié de ses effectifs. Il lui restait 20 000 fantassins, 6 000 cavaliers, une armée de 26 000 hommes, et Rome pouvait lui opposer 800 000 combattants. Mais il comptait sur son génie et sur les recrues qu'il pourrait faire parmi les Gaulois de la Cisalpine. Et les Alpes franchies, voici les Apennins. On était en hiver. Le pays était balayé d'ouragans de neige. Parmi les Cisalpins, que la présence de ses troupes foulait cruellement, parmi ses soldats eux-mêmes, le mécontentement grandissait. Ses jours étaient menacés. Force lui était de se dissimuler, et pour dérouter ceux qui voulaient sa mort, de changer continuellement de vêtements, de coiffures, apparaissant tantôt en jeune homme, tantôt en vieillard. Au passage des marais de l'Arno, monté sur le dernier éléphant qui lui restait, Hannibal perdit un œil dans les brumes, chargé des miasmes de la nuit. Il se heurte aux premières légions romaines sous les ordres des consuls. Sur le Tésain, Scipion. Sur la Trébie, Sempronius. L'un et l'autre sont battus. À Sempronius seul, Hannibal tue 30 000 hommes. Il continue d'avancer. Ses victoires lui amenaient des recrues gauloises. Le pays était inondé. Pendant 4 jours et 3 nuits, les soldats marchèrent dans une eau vaseuse qui leur montait jusqu'à la ceinture. La bataille du lac Trasimène valut aux Carthaginois une victoire plus éclatante encore. Le chemin de Rome leur semblait ouvert. Et cependant, dès alors une pensée clairvoyante aurait compris que la cause d'Hannibal était perdue, non seulement par la supériorité numérique des armées romaines, mais surtout parce que la domination des Romains sur les peuples d'Italie était assurée en sa base. Rome leur avait donné la paix au lieu des luttes incessantes qui ne cessaient de les épuiser. Grâce à la tutelle romaine, le commerce, l'agriculture s'étaient partout développés, la population s'était accrue. On n'avait plus à craindre les bandes de pillards qui venaient ravager les champs, mettre le feu aux demeures, tandis que Carthage ne dominait que par la terreur, exploitant les peuples soumis mais impatients de son joug. En ses revers, Rome trouvera, dans les populations sujettes, des alliés, tandis que la mauvaise fortune fera des peuples tributaires de Carthage ses pires ennemis. La bataille de Cannes, en 216 avant Jésus-Christ, apparaît comme un des événements les plus extraordinaires de l'histoire. La situation d'Hannibal était presque désespérée. Carthage ne lui envoyait aucun secours. Les Gaulois, venus à lui après ses premiers succès, menaçaient de le quitter. Son armée ne possédait plus de vivres que pour quelques jours. La tactique de Fabius le temporiseur, à la tête des armées romaines, était sur le point d'atteindre son but. Mais de nouveaux consuls, Varron et Polémile, furent placés à la tête des armées. Hannibal eut l'habileté de les attirer dans la plaine de Cannes, où ses cavaliers numides pouvaient se déployer. L'armée romaine comptait 80 000 fantassins et 6 000 cavaliers. Hannibal disposait de 50 000 hommes, dont 10 000 cavaliers. Les Romains subirent la défaite la plus écrasante dont l'histoire ait gardé le souvenir. 70 000 des leurs furent égorgés, presque tout le reste fait prisonnier. Le consul Marcus Varron parvint cependant à s'échapper grâce à l'excellence de sa monture. Les pertes d'Hannibal étaient insignifiantes. Hannibal pouvait croire sa cause triomphante, elle était perdue. Que faire avec des forces en nombre inférieur dans un pays hostile, hérissé de lieux de défense solidement occupés et devant les infranchissables remparts de la cité romaine? Hannibal espérait des renforts de Carthage, d'Espagne, de Macédoine. Le Sénat carthaginois fut le premier à l'abandonner. Que si Hannibal exagère ses succès, il ne mérite point de secours. S'il est vainqueur, il n'en a pas besoin. Dilemme que ses adversaires donnaient comme péremptoire. On sait, d'autre part, quelle incomparable grandeur de caractère et de volonté les Romains déployèrent dans le danger. Le général carthaginois ne pouvait songer à marcher sur Rome, dont le séparait plus de 300 kilomètres, semé d'obstacles de tout genre. Il se dirigea vers le sud et prit ses quartiers généraux à Capoue. Son armée y trouverait un repos nécessaire, et la ville lui offrait un port assurant ses communications avec la terre africaine. Voilà les fameux délices de Capoue. De nos jours encore se répète le propos attribué à Maharbal, un des officiers de l'armée carthaginoise, Tu sais vaincre, Hannibal. Tu ne sais pas profiter de la victoire. » Mais l'histoire, mieux informée, estime au contraire qu'on se trouve ici dans la partie la plus remarquable de la vie du grand guerrier. On le voit alors déployer des ressources d'énergie, de sagacité, d'ingéniosité surprenante. 14 années durant, Hannibal s'accrocha à ce coin d'Italie, défendant obstinément ses conquêtes, restant là comme une blessure saignante au flanc du monstre romain. Son activité s'étend bien au-delà de ses opérations militaires, activité diplomatique en Espagne, en Macédoine, en Grèce, jusqu'en Asie mineure, travaillant à soulever des nations ennemies contre Rome, dont il concentrait toutes les préoccupations sur lui-même. En 207, une lueur d'espoir. Un de ses frères, nommé Hasdrubal comme son beau-frère, lui fut signalé dans la vallée du Pô, venant à son secours avec des forces imposantes, des Gaulois en grande partie. La jonction des deux armées devait changer le cours des événements. On imagine, dans la pensée d'Hannibal, l'attente anxieuse. Lui-même ne pouvait bouger, compte tenu qu'il était par 3 armées romaines, lorsqu'un matin, des cavaliers romains, approchant des avant-postes carthaginois, y jetèrent une tête, la tête d'Hasdrubal. Rejoint par les légions et n'ayant pu éviter le combat, Hasdrubal avait été vaincu et avait trouvé sur le champ de bataille une mort digne de sa race. Hannibal ne versa pas une larme devant l'écroulement de ses espérances. « Carthage, murmura-t-il, je reconnais là ta fortune. » Par des prodiges de valeur, Hannibal put encore se maintenir 3 années durant sur le sol latin, menace permanente contre Rome et ses alliés. En 204, pour le déloger, Scipion conçut enfin le hardi projet d'aller porter la guerre en Afrique même, au flanc de Carthage. Hannibal dut s'embarquer en versant cette fois des larmes de rage à la pensée qu'il lâchait définitivement la proie sur laquelle, avec une obstination sans pareille, il s'était acharné depuis 20 ans. Il quittait cette terre d'Italie que, dans sa haine contre Rome, il avait remplie de terreur, recourant à tous les moyens pour assurer l'existence de son armée, jusqu'à faire brûler vives les femmes de ceux qui abandonnaient son parti. L'an 202 avant Jésus-Christ fut livrée la bataille de Zama, à 5 journées de marche de Carthage. Hannibal et Scipion se trouvaient face à face. Les Carthaginois furent vaincus. La paix avec Rome s'imposait. Carthage dut livrer 500 vaisseaux que les Romains brûlèrent en vue de la ville en pleine mer. Elle dut renoncer à l'Espagne, à la Sardaigne, à la Sicile, et s'obligeait à payer aux vainqueurs un lourd tribut 50 années durant. Ce qui sembla le plus dur à ce sénat de marchands fut d'en verser le premier terme. « Vous avez supporté, leur cria Hannibal avec mépris, vous avez supporté qu'on vous dépouillât de vos conquêtes, qu'on brûlât vos vaisseaux, qu'on vous désarmât. La honte de la patrie ne vous a pas attiré un soupir, mais vous pleurez aujourd'hui sur votre argent. » Dans Carthage, Hannibal se trouvait tout puissant par l'armée de mercenaires à sa dévotion. Il y apparaît en dictateur et dans les travaux de la paix, dans les réformes pour la restauration de la patrie, plus grand encore que dans la guerre. Effrayés du relèvement rapide de Carthage, sous les mains de l'homme de génie, les Romains exigèrent qu'il fût exilé. Hannibal se réfugia à Éphèse, auprès d'Antiochus le Grand, où les Romains continuèrent de le pourchasser dans la terreur qu'il leur inspirait. Hannibal dut se sauver plus loin encore, trouver asile auprès de Prusias, roi de Bithynie, où la haine, la crainte de Rome, vinrent le retrouver. Il sut que des sicaires étaient payés pour le tuer, alors il prit du poison qu'il portait toujours sur lui. « Je veux délivrer les Romains de la peur dont les remplit un vieillard dont ils n'osent pas attendre la mort. » Car le temps s'était écoulé. Hannibal avait 64 ans. Comme le note un de ses historiens, il quittait le monde après avoir tenu loyalement, pendant 40 ans, le serment de son enfance. Napoléon considère Hannibal comme le plus grand capitaine de l'Antiquité. Il en paraît même avoir été le plus grand homme, ayant à lui seul abandonné des siens, tenu en échec pendant près d'un demi-siècle la plus grande puissance, l'Empire romain, que le monde ait connue. Ainsi s'achève Hannibal, général carthaginois, par Funk Brentano.